Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, je suis en mode piéton. Hein, voilà, je l'enregistre à la façon d'un streetcast. Je vous l'avais dit, hein, je me balade un peu plus, je quitte mon bureau de plus en plus souvent. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de rendez-vous. Et donc là, ben, je passe d'un rendez-vous à l'autre, tout simplement. Donc j'ai 10 minutes de marche, un quart d'heure de marche à peu près, donc je vais en profiter pour enregistrer cet épisode qui est en plus un petit peu lié dans le sujet, parce que la thématique que j'ai choisie aujourd'hui, c'est vous parler un petit peu de créativité. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur la créativité, hein, c'est pas but du jeu, c'est pas de vous donner les techniques de toutes les techniques de créativité, comment booster sa créativité, parce qu'en fait il y en a tellement, c'est tellement compliqué. Elles sont tellement nombreuses que toutes les aborder seraient trop compliquées. On pourrait parler des post-it, du mind mapping, j'en ai déjà parlé, du brainstorming, des tables rondes. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais plutôt vous dire que, il faudrait retrouver un petit peu la créativité de quand vous étiez enfant. Voilà, tout simplement. Parce que finalement, un enfant, c'est quoi? C'est de l'énergie pour découvrir des choses, pour apprendre. Il faut cultiver son énergie. Mais ça, j'ai dit, hein, c'est l'importance du sommeil et des repas. Il est imaginatif, il invente toujours des choses, il invente des histoires, il boit du fauté dans une petite dinette, il se moque de que des choses soient possibles ou pas possibles, hein, du moment qu'il arrive à les associer ensemble, etc. Il invente des choses toujours qui nous paraissent, nous, aux adultes, toujours très curieuses. Mais pour lui, ça a sa logique. Hein. Il est rêveur, il s'imagine chanteur, joueur de foot, moi je m'imaginais aussi footballeur, cycliste ou je ne sais quoi, donc on a toujours une imagination, et quand on est enfant on cherche toujours des idées, et puis on est enfant, c'est quoi, testeur, explorateur, on ouvre les portes, c'est, rappelez-vous, le bébé qui fait tomber 10 fois la même chose et pour que ses parents le ramassent et puis il reteste en permanence de voir comment ça se passe, c'est la logique hein, même de l'enfance hein, qui est comme ça, d'apprendre les choses. C'est aussi un constructeur. Hein, on empile, on assemble les choses, on construit, on joue au Lego et à tout un tas de jeux de construction. Moi, je jouais aussi à faire des circuits de voitures, de trains, des choses comme ça. Alors, il y a bien sûr les jeux, ça va différer des âges, mais de toute façon, on s'amuse à construire, à empiler, à faire des tas de sable, des châteaux, je ne sais quoi. On fait rentrer des choses dans les autres, même quand c'est pas très logique, on essaye de mélanger des jeux. À partir de 2 jeux, on va en faire un 3e, etc. Il a aussi un aspect qui est assez positif en disant que on n'est pas limité quand on est enfant, justement, par toutes les pensées limitantes de dire « Ah, ça, c'est pas possible de le faire, ça, il faut pas que je le fasse, ça, c'est mal vu » ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, l'enfant, il n'est pas encore formaté. Et notamment, ce qui formate beaucoup, c'est l'école. Parce que l'école, c'est une machine, c'est une vraie usine à formatage de cerveau. Tout simplement parce que qu'est-ce que c'est une école? Vous avez chaque année des milliers d'enfants, des millions d'enfants qui rentrent à l'école. Et à la fin, il faut tous les amener à un même niveau de lecture, d'écriture, de connaissances théoriques, on va dire, grosso modo. Donc il y a une espèce de formatage qui se fait, mais le formatage aussi il n'est pas que dans le savoir qu'on va enseigner. En fait, il est aussi dans ce qu'on attend, dans les pratiques, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'être. La notation aussi est un vrai formatage important, parce que finalement, on sanctionne des erreurs. T'as faux ou t'as juste, hein, grosso modo, ça fait une note qui va en face. Alors que la vie après, notamment quand on fait du contenu, quand on entreprend, etc., c'est pas forcément ça. Hier, je disais à des étudiants, je leur disais... nous, on a pris des choix de vie, on a pris des choix pour lancer, par exemple, les activités, pour lancer la boutique de thé avec ma femme. On peut pas dire si c'était un choix qui était bon ou pas, on aurait pu faire d'autres choix. Peut-être que tous auraient marché, peut-être qu'il y en a un qui aurait mieux marché que l'autre, etc., mais ça, on le saura jamais. Et en tout cas, certains choix qu'on a fait ont marché, certains autres choix n'ont pas marché. Mais c'est pas, on n'a pas eu 0 ou 20, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas si simple que ça. Et puis, les études aussi, je le dis, ça formate beaucoup, hein, de toute façon. Le travail encore plus, parce qu'il faut rentrer dans les codes des entreprises. Alors, vous avez ces fameuses histoires de culture d'entreprise, où il faut coller à la culture d'entreprise. Alors, ça peut être sur l'arrivée aux heures, ça peut être sur l'habillement, ça peut être sur la manière de parler, la manière d'envoyer des mails, ou tout un tas de choses. Ça peut être, après, les routines qui vont s'installer, les carcans, les réflexes qu'on intègre au fur et à mesure, qui finalement, brident le petit animal qu'on est quand on est un gamin, puisque, comme nous disent les sages-femmes en ce moment, on dit, un enfant, un bébé, c'est un animal sensible qui n'a pas encore qui ne réfléchit pas à ces choses-là. Là. Et petit à petit, au fur et à mesure que notre cerveau va les réfléchir, aussi, il va construire des murs, des vraies limites. Et malheureusement, ces limites, souvent, ont une tendance à venir complètement peser sur la créativité et sur notre manière même d'être capable de penser, de trouver des nouveaux schémas de pensée. À l'inverse, l'enfant, lui, va oser expérimenter, se tromper, voilà, il n'y a pas de pression du résultat, hein, c'est j'essaie de marcher, je marche, j'y arrive pas, tant pis, je resterai plus tard. Il va tâtonner, il va essayer des choses, hein, un enfant, il est plutôt dans l'expérimentation permanente. Alors c'est ce qu'on essaie de rechercher, notamment ceux qui font de la recherche, hein. On essaie d'aller dans l'expérimentation, mais c'est aussi ce que font les artistes. Retrouver cette âme d'expérimentation pour voir justement ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui aboutit sur quelque chose ou ce qui n'aboutit sur finalement pas grand-chose ou pas sur ce qu'on espérait. Et puis il va essayer de faire un pas, un autre, tenter des choses et puis au fur et à mesure il enregistre, hein, on se construit comme ça des choses. Et puis... il est joueur, hein. On passe son temps à vouloir jouer, à vouloir jouer avec un petit peu tout d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir vraiment des jeux. Hein. Alors bien sûr maintenant on a tout l'aspect numérique, etc. Mais en fait, de tout, on pourrait jouer avec n'importe quoi. Hein. On dit souvent qu'on peut donner nous un caillou, on joue au foot. Il suffit pas grand chose pour jouer à plein de choses. Et tout peut être un jeu. L'alimentation peut être un jeu, les vêtements peuvent être un jeu, l'habillage peut être un jeu, vraiment, mais tout peut être un jeu. Donc en ça, c'est quelque chose que vraiment on perd au fil du temps. Et puis ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que dans l'enfant, quand il joue, quand il fait quelque chose, en fait, il va mettre toute son énergie dedans, il va se concentrer fortement dessus. Ils sont absorbés par ce qu'ils font, par le jeu, ils sont absorbés par jouer au foot, ils sont absorbés par, après, plus tard, par les iPads, par les choses comme ça, mais en fait, ils sont absorbés tout simplement par ce qu'ils font. Hein. C'est un truc qu'on perd, parce que nous, on a une tendance à vouloir penser à plusieurs choses en même temps, etc., alors que... eux, ils ont plutôt une capacité à être absorbés là-dedans. Et puis, ils le font souvent en plus sans réserve, c'est-à-dire sans calcul ni rien. Et c'est d'ailleurs ce qui est très intéressant. Moi, j'ai joué beaucoup, joué au foot, j'ai vu beaucoup de matchs de foot. Et chez les gamins, vous avez en fait, il y a juste qu'à un certain âge, vous savez, ils savent pas tricher au foot. Enfin, des fois, ils font des fautes sur les autres, mais c'est involontaire. Mais en fait, il n'y a pas un moment où ils sont calculateurs à vouloir tricher, à vouloir jeter par terre pour faire croire à l'arbitre qu'on a fait une faute sur eux ou quoi que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas cette notion de calcul, de triche, alors qu'il va arriver de toute façon tôt ou tard. Hein. Mais quand ils sont à fond dans le jeu, ils sont dedans, quoi, voilà. Et nous, on a plein de réserves. Alors ce que je vous propose, c'est que de se dire que finalement, on pourrait essayer de réfléchir, de penser, d'essayer de mettre en jeu sa créativité et de résoudre les problèmes et les idées que nous avons, un petit peu. Avec ces qualités de l'enfant, c'est-à-dire cette manière même d'être, de lâcher un petit peu certains aspects, certains formatages, etc. Alors, ça revient à une certaine technique créative d'ailleurs, hein, qu'on appelle ça de l'éloignement. Mais l'éloignement, ça peut être vous donner, si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Si vous passiez à travers les murs comme le passe-muraille de Marcel Aimé, qu'est-ce que vous feriez? Mais ça peut être aussi que fait un enfant quand il cherche à comprendre quelque chose, comment faire quelque chose et comment il poserait la question. Oui, parce que une des caractéristiques de l'enfant et que l'adulte perd et que pourtant on ne devrait pas perdre, et il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs renommés, hein, je lis des livres par exemple sur les mathématiques, etc., où la grande caractéristique, c'est que les gens posent des questions, et l'enfant pose beaucoup de questions. Vous savez, les fameux « pourquoi ?»« Mais pourquoi, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi c'est comme ça ?» etc. qui horripilent les parents, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a ça s'arrête jamais, cette histoire-là. Et pourtant, eh ben, si on appliquait la même méthode à nos problèmes à nous, si on n'arrêtait pas de les questionner en permanence et de rebondir dessus, ben, quelque part, on trouverait des nouvelles solutions. Alors, c'est la méthode, par exemple, de ce qu'on appelle des 7 pourquoi. C'est vous poser une question, pourquoi, et puis vous trouvez une réponse, mais après, vous reposez une question sur cette réponse, et puis vous enchaînez, donc vous en trouvez, vous allez enchaîner plusieurs questionnements comme ça, et réponses, et au fur et à mesure, vous allez noter vos questions, vos réponses, surtout que vous trouvez, et vous allez ensuite avoir peut-être probablement des grandes pistes. Alors par exemple, pour y partir d'une problématique, des gens qui veulent apprendre la photo, et puis vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent apprendre la photo? Alors vous allez dire, peut-être parce qu'ils trouvent leur photo moche, mais pourquoi trouvent-ils leur photo moche? Parce qu'elles sont pas aussi belles que celles qu'ils voient sur Instagram. Et pourquoi ne sont-elles pas aussi belles? Peut-être parce qu'elles ne sont pas lumineuses. Voilà. Alors pourquoi ne sont-elles pas lumineuses? Et bien c'est peut-être là où vous avez un élément de réponse et quelque chose que vous pourriez faire dans vos contenus, si le cœur de vos contenus était la photographie et aider les gens à faire de plus belles photos. Alors ça c'est un exemple qui fonctionne, vous allez déboucher sur pas mal d'idées, de nouvelles choses à faire. Une autre chose que vous pourriez faire en fait, c'est vous poser la question du comment faire, c'est-à-dire comment faire quoi, comment on fait ça, etc. Vous savez, souvent je prends l'image de la pub pour le lait, où vous avez le gamin qui finit par demander à son père, papa, comment on fait les bébés? Parce que le père, justement, répond pas. Quand on lui demande c'est quoi cette bouteille de lait, c'est quoi, pourquoi, toujours ces questionnements, et le gamin finit par finalement lui poser, mais c'est quoi cette bouteille de lait? Et comment on fait les bébés, plutôt, pardon. Et donc, souvent, ça me rappelle cet adage, en fait. Comment faire quelque chose, c'est une question, on ne la pose pas assez. Donc vous savez, l'adage, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Souvent, pour déboucher là-dessus, il faudrait aussi, quelque part, se poser la question, non pas du pourquoi ou quoi que ce soit, mais comment faire quelque chose. Et c'est, je vous le dis, c'est une question qu'on se pose assez peu, qu'on se pose trop peu. Pourtant, quand on pose la question comment faire quelque chose, c'est on cherche les solutions, tout simplement, pouvant être mises en œuvre. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche active et positive de recherche de solutions et non pas de recherche de questionnement. On n'est pas dans une recherche du passé ou de pourquoi ça marche pas ou quoi que ce soit. On est dans une recherche finalement de la solution, de progrès. Voilà, vraiment dans cette optique-là. Alors, on pourrait poser de multiples questions, mais c'est à chaque fois qu'on se la pose, finalement, il y a une. Si on se la pose, si on pose le comment faire, vraiment, on va sous-entendre en fait qu'une réponse est possible. Voilà. Et donc une solution est possible. Donc je reviens sur mon histoire. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ou s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème aussi, des fois vous entendez. Et si vous partez de ce principe-là et que vous posez la question, vous sous-entendez qu'une réponse est possible, finalement vous vous emparez du problème directement et vous lancez presque le défi de dire oui, bon, si je pars du principe que la solution est possible, je dois trouver que cette solution est possible. Et c'est là où vous avez un défi. Et alors je lis des bouquins en ce moment, notamment un bouquin de une discussion entre où il y a Cédric Villani dedans, le mathématicien. Ou vraiment, c'est ce qu'il dit, il est un mathématicien, il prend un problème, on lui dit que c'est impossible de résoudre une équation, et lui, il va se mettre au défi de la résoudre. Et comment faire pour résoudre cette équation? C'est un petit peu le questionnement des chercheurs et de certains chercheurs dans certaines disciplines. Alors, si on l'applique au contenu, si je reviens à mon exemple précédent, comment faire une photo lumineuse? D'un coup, vous débouchez sur un tutoriel, sur une méthode, sur vos astuces pour arriver à le faire. Et vos astuces aussi pour vous assurer qu'est-ce que c'est qu'une photo lumineuse, comment est-ce qu'on mesure une photo lumineuse et la définition même, et comment est-ce qu'on arrive finalement à avoir des photos peut-être plus lumineuses, etc. Comment faire une photo idéale pour Instagram vous amène aussi à définir quelques solutions. Comment faire un podcast vous amènera à définir un processus pour créer un podcast, trouver les astuces, expliquer les astuces, la démarche de le faire. Comment faire pour trouver des clients, ou trouver des nouveaux clients. C'est pareil, on est vraiment dans la même recherche de solutions On n'est pas sur le questionnement de pourquoi je n'ai pas de clients, mais vraiment de comment faire finalement pour passer au-delà et arriver à trouver des clients. Alors, l'enfant ne fait pas que poser des questions, comment faire ou quoi que ce soit. Il a aussi une capacité à s'étonner. Et là, c'est le troisième axe de créativité que je voulais vous donner. C'est qu'en fait, il faut pratiquer l'étonnement. Pour un enfant, de toute façon, tout est neuf, hein, donc tout est découverte. Pendant très longtemps, vous ne faites que découvrir des choses. Et de toute façon, tout ce que vous découvrez dans vos premières années est toujours tout neuf, quoi. Donc il s'émerveille de tout ce qu'il découvre, puisque de toute façon, tout est à découvrir. Et en fait, il a envie de tester plein de choses, de pousser les portes, de tester des choses, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on doit retenir là-dedans, c'est de garder un regard un peu candide sur les choses, de se laisser surprendre. Et surtout, ça serait de garder l'œil du néophyte. C'est-à-dire que le spécialiste, en fait, il est toujours dans le truc de dire « oui, bon, ça ne marchera pas, ça on a essayé, etc. » Alors que le néophyte, bah lui, finalement, il peut pas dire que ça n'a pas marché, puisque quelque part, il l'a jamais testé. Et pratiquer l'étonnement, c'est aussi, par exemple, sortir des routines, se créer ce qu'on appellerait des mini-chocs. Voilà, c'est dans votre vie quotidienne, vous créez, en fait, au lieu de tourner en boucle dans vos habitudes, bah vous essayez d'en sortir. Alors, je vante pourtant les routines très souvent, et pourtant, l'avantage des routines, c'est qu'elles vous laissent du temps pour ensuite faire des choses. En gagnant du temps sur vos routines, vous gagnez du temps ensuite que vous pouvez mettre à contribution justement pour vous créer ces mini-chocs et travailler votre créativité et sortir un petit peu des sentiers battus. Alors, je vous donne quelques exemples. Hein. Vous pourriez tout simplement changer de trajet pour aller au boulot. Si vous avez le temps, vous pouvez essayer de changer de trajet plutôt que de toujours faire le même. Arriver plus tôt ou plus tard au travail aussi, de voir. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui le matin ne font pas tout à fait la même chose que vous, ou le soir peut-être, la vie est un petit peu différente. Changer de quartier, changer de magasin, partir à pied au lieu de prendre sa voiture par exemple, pour faire une course à quelques centaines de mètres, si vous, plutôt que de faire une course en voiture de 2-3 minutes, si vous allez marcher limite un quart d'heure, il est fort probable qu'en, ne serait-ce qu'en vous déplaçant à un autre rythme, et probablement aussi par un autre chemin, vous allez découvrir des nouvelles choses, vous allez avoir des nouvelles réflexions. Déjeuner à la cantine plutôt qu'au restaurant, prendre un jour de RTT en semaine, peut-être pour certains. Changer de point de vue, mais c'est simple, hein, c'est se baisser, regarder dessous, monter sur une chaise, vous voyez, tous ces trucs-là qu'on a traditionnellement, font partie aussi des manières de changer de point de vue et donc d'aiguiser sa créativité, de l'aiguiser différemment. Un truc que vous pourriez faire, c'est partir juste au hasard, hein, dans votre prochaine balade, c'est à chaque croisement, vous laissez faire le hasard et vous dites, vous pourriez presque, je vous dis pas de le faire avec un dé, mais est-ce que vous tournez à droite ou à gauche, vous pourriez dire, pourquoi je laisserais pas faire le hasard, voilà, si je regarde ma montre, si la minute est une minute paire, je tourne à droite, si c'est une minute impaire, je tourne à gauche, par exemple, vous voyez une histoire de changement de créativité, de changement de chemin que vous pourriez faire très simplement. Vous allez vous retrouver très probablement à un endroit que vous ne connaissez pas ou d'une manière totalement différente. Vous voyez, alors là, par exemple, moi, je suis en train de me balader dans les rues. C'est un quartier que je connais bien, hein, j'ai fait mes études. Mais typiquement, les rues ont changé, les choses ont changé un petit peu. Et puis, j'ai tourné une fois à droite, une fois à gauche, et puis j'ai retourné, et puis je suis en train de faire des demi-tours. Mais à chaque fois, il y a des nouvelles choses qu'on voit. Vous voyez, je me suis arrêté devant des affiches, j'ai vu des nouveaux magasins, j'ai vu des trucs un peu surprenants, voilà. Et il y a plein de choses comme ça qui pourraient appeler votre esprit et qui pourraient vous appeler soit des réflexions, soit peut-être des questionnements ou des trucs en vous disant ça c'est un problème qui pourrait solutionner ou ça c'est une question qui m'interpelle ou quoi que ce soit. Mais vous en avez plein d'autres, hein. C'est juste utiliser différemment les objets de notre quotidien. Par exemple, votre appareil photo, vous êtes toujours en manuel ou dans un mode que vous aimez bien. Pourquoi est-ce que vous essayez tout simplement pas de le désactiver, hein, passer en mode manuel ou passer du mode, du mode sport au mode priorité à l'ouverture ou inversement pour voir les réglages comment ils vont se faire. Laissez à la maison votre appareil photo et dites-vous je fais des photos avec mon iPhone ou alors. Dites-vous, au lieu de faire de la photo ou de la vidéo, je vais faire du son, je vais essayer d'enregistrer mon environnement sonore, etc. Bref, la créativité, en fait, c'est capter des détails insolites, les explorer, les questionner, se poser des questions dessus, Et vraiment, c'est capter tout ce qu'il y a autour de nous, tout un tas de petits signes qu'on a fini par ne plus voir, et en fait, s'en servir pour nourrir ses réflexions et ses questionnements et ses recherches, et trouver des idées. Et des fois, des simples idées comme ça vont vous aider à trouver tout simplement des nouvelles idées de contenu. Voilà. La créativité, ce n'est pas spécialement chercher ce qui n'a jamais été fait en disant « Ah tiens, est-ce que je ne vais pas trouver une idée que personne n'a jamais eue ou quoi que ce soit ?» Parce que plus on avance et de toute façon plus les gens auront eu toujours les idées, donc ça va être de plus en plus compliqué. Et de toute façon, on ne construit que sur ce que les autres construisent déjà avant nous, on construit sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a écouté, donc c'est une affaire de... On se nourrit les uns des autres, hein. Voilà. Donc on va pas chercher toujours à inventer des grandes idées, et souvent on cherche des grandes idées alors qu'il y en aurait plein de petites idées qui seraient juste là sous nos yeux, sur un détail dans la rue, sur un élément, sur un mur, sur une fonctionnalité cachée, sur peut-être, je vous le dis, en regardant vos enfants faire un truc qui vous semble peut-être sur le coup aberrant et qui pourrait vous dire ben, finalement c'est ça la bonne idée. Ou peut-être en regardant vos collègues travailler le matin, vous vous rendez compte qu'ils ont certaines habitudes qui sont totalement différentes des vôtres, mais qui vont questionner les choses et peut-être qui vous emmèneront à réfléchir et à créer du contenu là-dessus. Voilà. C'était un petit peu l'idée que je voulais partager dans cet épisode. C'est de vous dire que finalement, des fois, on cherche beaucoup de méthodes pour améliorer sa créativité et des fois, il suffirait juste en fait de redevenir l'enfant que l'on a tous été, parce qu'on a tous été enfants et on a tous eu ces qualités en nous. Mais malheureusement, on vit dans des sociétés aussi qui ont une tendance à nous brider là-dessus. Donc voilà, il faudrait retrouver un petit peu cet esprit de notre enfance, redevenir un enfant, se reprojeter dedans et accepter d'expérimenter, de tester, d'avoir les yeux grands ouverts sur ce qui nous entoure et pas seulement... rester enfermé dans des murs qu'on s'est construit et qu'on a construit autour de nous au fur et à mesure des années. Voilà, c'est aussi ça, trouver des idées et la créativité, c'est aussi comme ça qu'on trouve des idées. Sur ce, moi je suis arrivé à mon rendez-vous et j'ai terminé exactement de vous dire tout ce que je voulais vous dire. Ce qui veut dire que je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.